Radio Okapi.
Je suis Lonsa Opondé pour le bulletin, pour le journal sur la fréquence de la paix.
Dépôt ce lundi par le Premier ministre du dépôt du projet de la nouvelle loi électorale au bureau du président de l'Assemblée nationale. Quelques innovations devraient corriger l'ancienne loi électorale. 30 détenus de la prison centrale de Dungu condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de servitude pénale. C'est à l'issue d'une première série des procès du tribunal de grande instance d'Isiro siégeant en chambre foraine. La ville de Kisangani, privée d'électricité depuis une semaine maintenant. Pour parler de la situation, le directeur du département de production de la SNEL, Richard Capia, est notre invité. Bonjour et bon début de semaine à tous. C'est en principe ce lundi avant midi que le Premier ministre Bruno Tshibala va déposer sur le bureau du président de l'Assemblée nationale au Baminakou le nouveau projet de loi électorale. Cette loi dont l'adoption et la promulgation constituent une des contraintes soulevées par la CENI, susceptible de compromettre le respect du calendrier électoral, devrait faire l'objet d'examens dans la célérité. Ce nouveau projet de loi a en effet connu quelques innovations, notamment en ce qui concerne les dispositions pour aider à la moralisation des acteurs politiques en renforçant les conditions d'éligibilité. Les détails avec Jacques Yves Moulima.
D'après ce projet de loi, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d'électeurs enrôlés de la RDC et non plus le nombre d'habitants recensés au pays par le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale qui est de 500. Au niveau de la province, le nombre de sièges est obtenu par la division du nombre total d'électeurs enrôlés dans la province par le quotient électoral. Il en est de même pour chaque circonscription électorale. De ce fait, le seuil de représentativité est déterminé au niveau national à 3%, c'est-à-dire seule la liste des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint le 3% se verront attribuer les sièges après l'élection. Cependant, dans les circonscriptions à un seul siège, seul le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu. En ce qui concerne enfin la moralisation des acteurs politiques, le projet prévoit la régulation des cas des candidats indépendants qui exercent tout mandat pour le compte d'un parti ou regroupement politique. Ces derniers doivent, sous peine d'irrécevabilité de sa candidature, établir la preuve de sa démission qui doit intervenir au plus tard 3 mois avant le dépôt de candidature. En d'autres termes, pour une élection en décembre, celui qui se présente en indépendant doit quitter son parti ou regroupement 3 mois avant, soit en septembre.
En rapport avec cette nouvelle loi électorale, le M17, mouvement du 17 mai, salue les innovations y apportées, mais ce parti centriste souhaiterait que le pouvoir de publication des résultats soit décentralisé et que chaque circonscription électorale soit autonome. Écoutez Augustin Kikukama, président du M17, qui l'a déclaré hier dimanche à la presse, il est au micro d'Innocent en ligne.
Comment faire en sorte que nous ayons de bonnes élections? Comment faire en sorte que au moins 90% des élus soient réellement la volonté de ceux qui ont voté, pas des élus, une liste qui a été concordée dans les histoires des compilations issues à Kinshasa? On donne des voix à des gens qui n'en ont pas. Je crois que ce que nous pouvons faire, c'est les réformes pour amener la population à avoir de bonnes élections. Et les réformes les plus importantes pour nous, c'est d'abord, la CENI, la loi électorale. Que cette loi électorale décentralise les pouvoirs de publication des résultats. Qu'il n'y ait plus de compilation à Kinshasa. Que chaque circonscription proclame ses résultats et en assume la responsabilité pénale lorsqu'il y a des cas de fraude. Parce que c'est au niveau de la compilation des résultats que les choses se gâtent.
Toujours dans ce chapitre, sachez que 4 candidatures sont retenues pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur au Kasaï central. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé l'opération de réception des candidatures hier dimanche à Kananga. Les détails avec Blaise Ndongala.
À Kananga, le bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur a fermé ses portes ce dimanche. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI, 4 candidatures ont été jugées recevables, parmi lesquelles 3 indépendants et une de la majorité présidentielle. Sur la liste AMP, il y a Mathias Boboakayembe qui a comme colistier Manix Kabwanga. Sur la liste d'indépendants, il y a le candidat Kabuya Mulamba qui fait un ticket avec Muntu Woma. Le candidat Tolo Kalunga a comme candidat vice-gouverneur Chibangu connu. Le dernier candidat sur la liste d'indépendants s'appelle Rémi Moussungaï Bampalé. Ce dernier a comme colistier Bouéboué Kasséou. Il faut noter que tous ces candidats gouverneurs ont payé une caution de 2 500 000 francs congolais, soit plus de 1600 dollars américains. Au Kasséi central, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur est fixée au 21 décembre prochain, soit plus de 2 mois après la déchéance du gouvernement Kandé. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Politique encore avec cette dénonciation du parti en vol. Ce parti de l'opposition condamne le traitement dégradant dont a été victime son président de lycée Sanga à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Dans une déclaration à la presse hier dimanche à Kinshasa, le porte-parole de cette structure politique indique qu'il s'agit d'une pratique liberticide. D'après maître Nicolas Lenga, les agissements de la police réprimant une manifestation politique organisée au sein du siège du parti démontrent suffisance, le manque de volonté politique du pouvoir en place d'assurer une décrispation effective de l'espace politique pour la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans un climat politique serein. Nicole Lenga, porte-parole de l'Envol, est au micro de Jacques Moulima.
Nous dénonçons cette pratique liberticide de violente répression qui empêche les paisibles citoyens, les praticiens de la politique d'user de leurs droits constitutionnels. Samedi 18 novembre, nous sommes arrivés avec une forte délégation accompagnant le président national honorable de lycée Sanga à Kenge pour qu'il s'entretienne avec la base de Kenge dans le cadre de la restructuration de nos comités fédéraux et de la coordination provinciale de Kwango. Nous avons rencontré une répression sans nom, sans précédent, jusqu'au point d'agresser physiquement l'honorable de lycée Sanga, de lui arracher ses chaussures, de le séquestrer.
Quel est le bilan que vous établissez?
Nous avons déploré plusieurs pertes matérielles, mais surtout 6 blessés graves, dont 4 par balle et 2 par coup de matraque. Et nous signalons que cette manifestation-là se tenait chez nous, dans notre permanence de la province, dans la cité de Kenge.
Direction le Haut-Ouélé, je l'ai dit en titre, 30 détenus de la prison centrale de Dungu ont été condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de servitude pénale principale. Le verdict est tombé samedi à l'issue d'une première série de procès au tribunal de grande instance d'Isiro et siégeant en chambre foraine. Dans cette entité, ces détenus étaient poursuivis notamment pour assassinat, homicide intentionnel, vol qualifié, viol d'enfant et extorsion. Godly Vomondo.
Environ 60 dossiers ont été soumis au jugement du tribunal de grande instance d'Isiro, siégeant en chambre foraine depuis 3 semaines dans la cité de Dungu. Charles Tapalé, procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Isiro, nous fait le condensé de cette première série de prononcés.
Nous avons prononcé au total 3 jugements, 9 pour vol qualifié, 2 prononcés d'assassinat, des gens qui ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale, 2 jugements sur l'homicide de tel intentionnel, 1 jugement sur l'homicide involontaire. Et puis 12 jugements de viol de mineurs. 3 jugements où le tribunal s'est déclaré incompétent parce que les prévenus, apparemment, ils ont prouvé qu'ils étaient des mineurs. Alors ils se sont déclarés incompétents à leur endroit. Et finalement, il y a eu aussi 2 acquittements.
Toujours selon lui, tous ces jugements ont été motivés. Les jugements pour la dernière série des 30 autres dossiers en délibéré seront fixés ce lundi, a affirmé le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Isiro. Toutefois, il plaide pour un appui logistique des partenaires en vue d'une organisation régulière des chambres foraines dans cette région. Kisangani, Godly Vomondo, Radio Okapi.
Et pas très loin de là, en Ituri, le recteur de l'université de Bunia, Unibou, appelle ses étudiants à l'apaisement. Le professeur Barnabé Milala a fait cette déclaration hier dimanche à Radio Okapi. Une délégation de cet établissement de l'État va faire un déplacement ce lundi à Kinshasa pour rencontrer les autorités nationales en vue de trancher le problème foncier qu'il oppose à un opérateur économique de la place. Pour sa part, le président provincial de la FEC appelle les étudiants à ne pas céder à la manipulation. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Ces deux personnalités ont fait cette déclaration juste pour prévenir des manifestations publiques comme celles qui ont opposé la police aux étudiants il y a quelques semaines à Bunia et dont les deux parties s'en étaient sorties avec de blessés graves. Pour les recteurs, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est déjà saisi de l'affaire. Rien ne sert donc plus à s'agiter. Professeur Barnabé Milala.
Son Excellence Tim Bikai appelle les étudiants à être tranquilles, à se rassurer qu'il a pris cette affaire à bras le corps. Les étudiants, un mémo pour les chefs de l'État. Nous déposerons tout ça parce que le chef de l'État tient à la jeunesse.
Le président provincial de la FEC appelle pour sa part les étudiants à ne pas céder à la manipulation pour lui, même si, au final, cet immeuble revenait à l'opérateur économique David Kirikou. Il ne sera donc pas question de déplacer les étudiants avec brutalité. Bobulenga Constant.
Je peux demander à nos autorités, vieux que nous sommes, à ne pas intoxiquer les enfants de descendre dans les rues, parce que ça ne peut pas résoudre les problèmes. Qu'on laisse que l'État puisse terminer le processus comme il se doit. Aux enfants, j'ai dit qu'ils soient calmes. Les enfants ne seront pas déplacés dans cette parcelle à désordre non plus. Ce sont nos enfants.
Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Retournons dans la province de Latchopo. Les membres des réseaux des organisations de la société civile environnementale disent être contre le transfert des eaux du fleuve Congo et de ses affluents vers le lac Tchad. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration hier samedi à Kisangani pour les signataires. Les quatre objectifs énoncés dans le projet Transaqua du Fonds Bleu ne rencontrent pas les intérêts de la RDC. Les délégués de ces organisations de la société civile environnementale recommandent au gouvernement et au Parlement congolais notamment la mise sur pied d'une plateforme multi-acteurs traitant toutes les questions ayant trait à la gestion des eaux du bassin du Congo et du bassin du Nil. Suivant l'extrait de cette déclaration lue par André Safari au micro de Gottlieb Omondo.
Considérant que lors d'un des événements parallèles de la COP23 tenue à Bonn en Allemagne, la question du transfert des eaux des affluents Ubangi ont été traitées par les experts tchadiens sans concertation et en l'absence des officiels et des experts de la RDC, ce qui constitue une énième tentative d'exclusion de la RDC en ce qui concerne cette matière, recommande au Parlement la mise en place des commissions d'enquête sur le transfert des eaux du bassin en vue d'éclaircir l'opinion nationale, l'élaboration de lois renforçant la législation nationale et transfrontalière en matière des eaux du bassin du Congo. À la société civile, le renforcement des capacités des OAC afin d'appréhender les enjeux actuels et futurs, de sensibiliser la population locale et peuples autochtones.
Pour chaque enfant, des rêves. C'est le thème de la Journée internationale de droits de l'enfant. C'est lundi 20 novembre. Au Nord Kivu, les enfants seront au pouvoir. Au gouvernement provincial, par exemple, il y aura un enfant ministre de la Justice et un autre ministre du Genre. Une manière d'encourager les enfants à prendre part active à toutes les questions qui touchent à leur développement. Leaders de demain, ils doivent participer dès aujourd'hui, a dit Anne Daer-Haden, représentante du chef de bureau de l'UNICEF, au lancement des manifestations de cette journée samedi à Goma. Lokango Divine, 17 ans, sera ce lundi l'alter ego de la ministre provinciale de la Justice au Nord Kivu. Très motivée, elle parle d'abord de ses rêves au micro de Rosalie Zawadi.
Je rêve d'être une femme d'honneur parce qu'on a toujours pris la femme dans nos différentes communautés, pas seulement en RDC, comme une machine sexuelle, comme une chose du genre. Quelque chose qui n'est là que pour les enfants, pour la cuisine. Et moi, je ne partage pas cet avis parce que nous avons des potentiels et nous pouvons les développer. Donc moi, je veux être une femme forte, une femme d'honneur. Et je veux aussi œuvrer au développement de mon pays. Je rêve d'un pays en paix, la RDC avec une paix permanente, avec une économie stable. Je rêve d'un pays où les femmes auront leur voix. Je rêve d'un pays où le Parlement ne sera pas composé majoritairement que d'hommes, mais qui aura aussi assez de femmes et qu'on pourra être écoutées. Donc, je rêve d'une RDC assez féminisée.
Pour que mes rêves puissent aboutir, la chose la plus capitale que je pourrais faire, c'est m'instruire.
Je prends vraiment mes études au sérieux parce qu'on ne peut aller nulle part en n'étant pas instruite. Et ça, je pense que ça pourra me booster jusqu'à atteindre mes rêves.
Actualité Afrique Monde.
D'abord, Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe le somme de quitter le pouvoir, c'est lundi, faute de quoi il déclenchera contre lui une procédure de destitution. Au pouvoir depuis 1980, Mugabe a créé hier soir une énorme surprise et la confusion en n'étant aucun compte des appels à sa démission ni de sa spectaculaire éviction quelques heures plus tôt de la direction de son parti, la ZANU-PF. Selon le site d'information romandie.com, lors d'une déclaration péniblement prononcée en direct à la télévision nationale. Les plus vieux dirigeants en exercice de la planète, 93 ans, a même déclaré qu'il va présider le mois prochain le congrès de son parti. Le Zimbabwe tout entier s'attendait pourtant à ce que Robert Mugabe remette sa démission quelques jours après le coup de force de l'armée. Le pape François a convié hier dimanche au Vatican plusieurs milliers d'exclus pour partager avec eux la première journée mondiale des pauvres, appelant à refuser l'indifférence face aux plus démunis. En 2016, venus de toute l'Europe, 3500 domiciles marginaux, prostitués et autres cassés de la vie, avaient fait le déplacement. Ils étaient 7000 cette année.